bonsoir. Edem Kodjo a officiellement été désigné la semaine dernière par l'Union africaine facilitateur au dialogue politique en RDC. Cette désignation suscite plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise. Pour la majorité présidentielle, cette décision de l'Union africaine enlève tout obstacle à la tenue de ce forum. Mais une frange de l'opposition, notamment le G7 et la dynamique de l'opposition, confirme sa décision de ne pas participer à ce dialogue. Quel est le père de cette situation? C'est le terme de dialogue entre Congolais de ce lundi 11 avril 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Dieudonné Mwenze, cadre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Dieudonné Mwenze, bonsoir.
Bonsoir, madame Kenny.
Et notre Dieudonné dans ce studio, Dieudonné Bolenge Tengue, lui il est député national et secrétaire exécutif national du MSR, un des partis du G7, membre de l'opposition. Monsieur Bolenge Tengue, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Robert Kabandani depuis Bukavu au sud Kivu. Le choix d'Edem Kodjo a constitué et constitue l'objet des contestations par un groupe des partis politiques. Si rien n'est fait dans le sens de faire venir ceux qui hésitent encore à la raison, ce dialogue risque d'accoucher d'une souris. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dialogue politique en RDC, le facilitateur, comme vous le savez, a été désigné officiellement par l'Union africaine. Il s'agit du Togolais Edem Kodjo. Pour le gouvernement et la majorité au pouvoir, la confirmation d'Edem Kodjo et l'appui qu'apporte la résolution 2277 du Conseil de sécurité au dialogue ont enlevé tout obstacle à la tenue de ce forum. Mais du côté de l'opposition et du Front citoyen, les avis divergent quant à la participation des uns et des autres à ce dialogue. L'équipe est là pour les détails.
Pour le compte de la majorité présidentielle et du gouvernement, ils sont deux à avoir pris position officiellement jusqu'ici à ces sujets. Le secrétaire général de l'AMP et président de l'Assemblée nationale, Obemi Naku, ainsi que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Pour ces derniers,
le dialogue va avoir lieu parce que les conditions sont remplies. Les dernières hésitations viennent d'être rencontrées par la communauté internationale qui a soutenu sans embâge l'initiative du président répondant à cette requête de l'opposition.
Côté opposition, justement, les députés nationaux Clément Kankou est le tout premier à donner de la voix.
Aujourd'hui, que la communauté internationale décide à travers cette résolution de nous accompagner dans ce processus et que Edem Kodjo est désigné, je pense qu'il est plus que temps que l'ensemble de l'opposition se mette autour d'une table. Parce qu'il y a péril en la demeure. Nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de nous retrouver pour trouver un cahier des charges commun qui viendra barrer la route à toute velléité de violation de constitution par la majorité.
Que pense le G7? Écoutez Olivier Kamitatou.
Le G7 réaffirme son rejet catégorique du dialogue national convoqué par le président de la République car sans objet et extra-constitutionnel. Le G7 espère que M. Edem Kodjo ne vient pas ici pour remettre en cause la résolution 2277 du Conseil de sécurité, ni pour aider la majorité présidentielle actuelle à créer une nouvelle légitimité extra-constitutionnelle.
Pour la dynamique de l'opposition, Jean-Claude Vemba estime que ce dialogue n'est pas opportun.
Nous attendons que M. Kabila et son gouvernement puissent mettre en œuvre les résolutions et les recommandations des concertations. Jusqu'à ce jour, nous ne l'avons pas. En ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est le plus grand législateur. Le dialogue est prévu quelque part dans la Constitution. Et pourquoi forcer les gens à aller au dialogue?
Quant au Front citoyen, rien n'a changé. Jean-Claude Katende est son porte-parole.
Le Front citoyen a déjà dit qu'il ne participerait pas au dialogue tel que convoqué par le président de la République, M. Joseph Kabila.
Contacté, le secrétaire général de l'UDPS affirme que son parti se fera connaître incessamment sa position quant à sa participation ou non au dialogue politique.
Merci, Pélé, qui est là Kamundo, le chemin du dialogue politique en RDC est enfin balisé. Les assises devraient s'ouvrir incessamment avec ceux qui sont d'accord et prêts pour ce dialogue. Ainsi l'a annoncé le facilitateur du dialogue en RDC, l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo. C'était lors de sa première conférence de presse, après la série des consultations qu'il a eues avec différentes forces politiques congolaises. Et pour ce faire, d'après Edem Kodjo, le comité préparatoire devrait être mis en place à la fin de cette semaine, le temps pour lui de parfaire les dernières consultations afin de revêtir ce dialogue de son caractère inclusif. Les propos d'Edem Kodjo ont été recueillis, par Jacques Molima.
Si on veut un dialogue inclusif, il faut viser à avoir tout le monde. Alors la grande première étape, c'était savoir si l'UDPS marchait avec nous. Aujourd'hui, c'est le cas. Eh bien, moi, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons essayer de mettre en place le comité préparatoire dès la fin de cette semaine. J'ai besoin encore d'avoir un peu de temps pour les consulter, même ceux qui ne sont pas chauds pour démarrer le dialogue avec nous, parce qu'en tout état de cause, ils auront leur place parmi nous. Parce qu'il y a un dialogue inclusif et le dialogue doit demeurer inclusif. Mais on ne peut pas non plus rester indéfiniment sans avoir la moindre perspective. C'est la raison pour laquelle nous laisserons toujours la place pour nos frères, dès qu'ils en auront exprimé le besoin, venir s'asseoir avec nous et on travaillera tous ensemble.
Notez que le facilitateur a rassuré les camps de ceux qui continuent à rejeter le dialogue. Pour lui, son travail ne se fera pas en dehors de la Constitution. Son travail ne se fera pas avec l'idée de ne pas respecter le délai constitutionnel. Dieudonné Moïse, vous êtes cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous avez accueilli la désignation d'Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue politique en RDC?
Écoutez, madame, nous avons accueilli, comme tous les Congolais, pris de paix, avec enthousiasme, la désignation de M. Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue politique national inclusif initié par le chef de l'État en République démocratique du Congo. Déjà, depuis le début de cette année, M. Edem Kodjo était déjà désigné pour les consultations et afin de pouvoir rapprocher les uns les autres autour de l'idéal et de l'initiative du chef de l'État, Joseph Kabila, pour que les acteurs politiques congolais et même la société civile congolaise comprennent l'impérieuse nécessité de pouvoir se retrouver et de pouvoir se parler en tant que fils de ce pays et de pouvoir baliser le chemin de l'avenir pour des élections crédibles, transparentes et acceptables par tout le monde. Et cette gouvernance électorale ne pouvait pas être balisée sans pour autant que nous puissions avoir un dialogue. Et en filigrane, vous savez, ce qui avait un peu bloqué la tenue de ce dialogue depuis l'année passée, c'est qu'il y avait une revendication d'une partie de l'opposition qui voulait nécessairement avoir un facilitateur, et donc quelqu'un qui n'est pas congolais. Et comme je le disais autrefois dans ce studio, que c'était un monsieur qui ne pouvait pas parler ni les Kikongo, ni les Swahili, ni les Chiluba, ni le Lingala. Et bien, nous avons M. Edem Kodjo qui connaît bien la République démocratique du Congo, qui ne parle pas une de nos langues nationales. Donc, quelqu'un qui peut être pratiquement comme un être, oui, qui connaît bien l'affaire, qui peut être un être, qui peut se mettre autour, au milieu, entre les belligérants, s'il faut appeler ça comme ça, c'est-à-dire entre les protagonistes, les gens qui ont des points de vue différents par rapport à ce dialogue, et pouvoir trouver tout juste le milieu qu'il faut pour pouvoir amener les élections transparentes et crédibles dans ce pays.
Alors, mais pour la majorité présidentielle, attendez, Monsieur Moïse, pour la majorité présidentielle, cette décision de l'Union africaine enlève tout obstacle à la tenue de ces forums. Donc c'était la seule raison qui bloquait l'organisation de ce forum.
Je viens de le dire. D'ailleurs, le point de vue de la majorité a été donné clairement par le porte-parole, M. Atundu, et également le point de vue du gouvernement donné par son porte-parole, le ministre Mende. Donc il est vrai que depuis l'année passée, nous l'avons toujours dit, si ça ne dépendait que de nous, le dialogue devait se tenir déjà après les consultations faites par le président Joseph Kabila en juin de l'année passée. Mais comme il y avait des pesanteurs, notamment les revendications d'une certaine partie de l'opposition, qui voulait nécessairement, comme je venais de le dire, avoir un médiateur ou bien un facilitateur étranger, et bien depuis l'année passée, et depuis plutôt le début de cette année, nous avons eu un chargé des consultations, M. Dem Kodjo, qui a fait ses consultations,
mais
qui a donné le rapport.
Mais il y a toujours une fronde de l'opposition, notamment le G7, la dynamique de l'opposition, qui continue à compter sur sa décision de ne pas participer à ce dialogue convoqué par le président Kabila.
Et là, je voudrais revenir sur le propos que j'ai entendu tout à l'heure d'un responsable du G7. Non, je crois qu'il dit une chose...
De
M. Kamitatou. Oui, M. Kamitatou, il dit une chose de son contraire. Je ne sais pas s'il a lu intégralement la résolution 2277. La résolution ne parle pas simplement des élections. La résolution ne parle pas simplement d'autres choses. La résolution parle également aussi du dialogue politique et nationale inclusif. Et d'ailleurs, je voudrais renvoyer M. Kamitatou au point, puisque la résolution a 53 paragraphes ou 53 points, mais je le renvoie au point 9 et au point 10. Qu'est-ce qui est dit au point 9? Et là, si vous autorisez, je peux lire. Il dit ceci: le Conseil de sécurité demande à toutes les parties prenantes d'engager un dialogue politique ouvert et sans exclusive sur la tenue de l'élection présidentielle conformément à la
Constitution. Dans les délais constitutionnels?
Non, ce n'est pas dit dans les délais constitutionnels.
Conformément à la Constitution, ça peut dire quoi?
C'est dans les délais constitutionnels. Je préfère lire ça. On va revenir sur ce débat si vous voulez. Le point dit ceci: le Conseil de sécurité souligne plutôt l'importance d'un dialogue véritable pour que les élections présidentielles et législatives soient pacifiques, crédibles et conformes à la Constitution. Donc, c'est vous dire simplement que la même résolution parle également du dialogue. Il ne faudra pas que M. Kamitatou comprenne que l'arrivée...
La Constitution.
Oui, je vais revenir sur ça. Je comprends que c'est un point qui vous intéresse et qui intéresse les auditeurs. Je vais y revenir. Mais j'ai dit simplement que M. Kamitatou doit comprendre que l'arrivée de M. Edem Kodjo ne remet pas en cause de la résolution 2277. Par contre, cette arrivée renforce l'exécution ou l'application de la résolution 2277. Mais pour revenir à votre question...
Je vous redonne la parole tout à l'heure, Monsieur Dieudonné Mouenzé. Monsieur Bolenge Tengue, vous êtes député national et secrétaire exécutif national du MSR, un des partis du G7, membre de l'opposition du côté du G7. Comment vous avez accueilli la désignation de Dem Kodjo?
La position du G7 ne devrait pas, je dirais, faire l'objet de nouveaux questionnements. C'est une position qui a toujours été constante. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis le début des missions de M. Kodjo dans notre pays, notre position n'a pas changé. M. Kodjo a été désigné pour procéder à des consultations. Il a été envoyé ici, dans notre pays, pour des consultations au mois de janvier. Dès lors que les communiqués de presse qui annonçaient sa venue en RDC ne faisait allusion à aucun sujet important sur lequel le peuple congolais et l'opposition et les forces vives de ces pays attachaient une grande importance, comme le respect de la Constitution, comme la problématique du respect des droits de la personne humaine, et comme le rétrécissement de l'espace politique dont nous nous plaignons. Dès lors que les communiqués qui annonçaient sa venue ne faisaient pas allusion à ce point, nous avons réservé à son passage ici une fête de non-recevoir. Et vous avez constaté qu'après sa première randonnée, il est reparti d'ici fin janvier presque sur la pointe des pieds. Et M. Kodjo, la mission de M. Kodjo a été remise en selle, notamment par les communiqués de quatre organisations. Lorsque l'Union européenne, l'OIF, les Nations unies sont allées à la rescousse de l'Union africaine, demandant à toutes les parties prenantes d'apporter collaboration à M. Kodjo dans le cadre d'un dialogue qui devrait se faire dans le respect de la Constitution. Nous nous sommes sentis plus ou moins concernés. Et nous avons envisagé à ce moment-là d'accepter le principe d'un forum politique, des négociations directes entre les forces de l'opposition et de la majorité, naturellement avec l'accompagnement de la communauté internationale. Et puis, entre ces communiqués des quatre organisations, il s'est passé deux faits majeurs.
Lesquels?
Il y a la résolution du Parlement européen du 10 mars dernier et la résolution 2277 à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, qui demande, qui est effectivement de pourparlers politiques dans notre pays, mais dans le cadre de la Constitution. Vous avez remarqué tout à l'heure, lorsque vous interrogez mon ami Dieudonné Mouenzé, dès lors qu'on parle de délai constitutionnel, ça fait tiquer à la majorité.
Pourquoi vous rejetez ce dialogue, puisque le facilitateur dit qu'il va respecter la Constitution?
Madame, vous avez vu ce qui a entouré l'annonce de la mission de M. Kodjo. Sa nomination est intervenue une semaine après la prise de la résolution 2277. Mais qu'est-ce qui a commenté cette nomination chez nous? C'est les forces de la majorité, à commencer par le secrétaire général de la majorité. Vous l'avez bien suivi lorsqu'il disait le forum va être libre, tout le monde va s'exprimer librement, et ceux qui ne se sentiront pas à l'aise là-dedans pourront toujours sortir librement. Lorsque vous entendez M. Kodjo dire aujourd'hui que nous pouvons aller au dialogue avec ceux qui vont accepter de commencer avec nous, les autres sont libres de nous rejoindre
mais,
par
mais
après.
Vous
avez l'impression d'entendre un deuxième communicateur de la majorité.
Non, il vous invite quand même à ce dialogue.
Qui continue à relayer les propos du secrétaire général de l'ANP.
Il vous invite à ce dialogue. Il demande à tous ceux qui sont encore réticents de pouvoir rejoindre ceux qui sont prêts à aller au dialogue pour discuter.
Les choses doivent être claires.
Et il vous a garanti même que son travail ne se fera pas avec l'idée de ne pas respecter le délai constitutionnel.
Les choses doivent être claires. Nous n'avons rien, les G7 en tout cas, ainsi que les autres forces de l'opposition et les autres forces vives qui aspirent au changement dans ces pays, nous n'avons rien contre la personne de M. Kodjo. C'est une question de principe. Pour nous, débattre des questions qui touchent à l'avenir politique de notre pays, notamment aux élections prévues pour cette année 2016, de toutes les questions qui touchent à l'alternance politique, débattre de cela dans un cadre qui rassure tout le monde ne devrait pas faire l'objet de discussions.
Merci.
Mais
Monsieur
le dialogue
Bollig,
tel qu'il a été convoqué par le président de la République n'est pas celui qui est repris, recommandé par la communauté internationale. Parce que celui qui a été convoqué par le président de la République le 28 novembre dernier ne fait pas allusion au cadre constitutionnel qui doit être respecté. Et donc, dès lors que la majorité se précipite à dire qu'il s'agit du dialogue convoqué par le président de la République, nous avons l'impression que nous ne parlons pas tout à fait de la même chose, ni M. Kodjo, ni la communauté internationale, ni la majorité présidentielle.
Merci, M. Bolenge-Tengue. Ne vous inquiétez pas, M. Dieudonné Mouenzé, on a un chrono. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez-vous cette situation? On a la désignation de M. Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue politique en RDC. La majorité a applaudi. Une tranche de l'opposition reste catégorique. Pas question d'aller à ce dialogue.
La nomination du médiateur Edem Kodjo est aujourd'hui un indicateur de l'imminence du dialogue. Et en fait, cette nomination, elle fait suite à voix qui ont été exprimées par les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, qui ont appelé les acteurs politiques congolais au dialogue dans le respect de la Constitution. Et il faut dire ici que cette annonce trouve l'opposition un peu écartelée. Et cette position de l'opposition va beaucoup l'affaiblir. Et parce que la mission du facilitateur me semble très, très, très délicate. Vous savez que quand on veut réussir un dialogue, il y a un certain nombre de conditions de réussite du dialogue. Et parmi les conditions de réussite du dialogue, vous avez un engagement politique suffisant. Et dans les cas d'espèce, il me semble bien que cet engagement politique n'est pas très suffisant, parce qu'il ne concerne pas toute la classe politique. Il y a une bonne frange de la donc de l'opposition, qui s'est dit ne pas être concerné. Ça va être un véritable problème pour un médiateur de pouvoir engager un processus de dialogue sans une bonne frange d'acteurs politiques. Il y a, ça pose également un problème d'une deuxième condition, qui est celle de l'inclusion adéquate. L'inclusion, on ne peut pas tenir un dialogue et construire un consensus qui ne serait qu'un consensus d'une partie d'acteurs. Et ça, comment, quelles sont les stratégies que va utiliser M. Ebem Koubio pour convaincre les autres qui ont refusé de venir au dialogue de bien vouloir le rejoindre? L'argument qui consiste à dire nous allons commencer avec ceux qui veulent, eh bien là, nous n'allons pas construire un consensus. Nous allons faire autre chose que le consensus. C'est peut-être là que sa mission devient beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicate. Mais également, l'opposition devra savoir, évidemment, nous allons voir un tout petit peu comment les positions la position de cette opposition va évoluer. Est-ce qu'ils vont tenir véritablement au refus de participer au dialogue ou avec des évolutions, est-ce qu'ils vont dire oui, nous allons quand même aller avec un certain nombre de conditions. Donc, les événements actuels vont un petit peu nous montrer quelle sera la prochaine marche de l'opposition. Et quand on regarde aujourd'hui la position de l'UDPS, il me semble bien que cette position n'est pas encore très claire. Et elle sera également très déterminante parce que si à la fois le geste et l'UDPS ne sont pas partie prenante, je ne crois pas que ce dialogue va véritablement se tenir. Là, véritablement, la plus grande difficulté de la facilitation. Il ne sera, moi, personnellement, je trouve que cette mission est très, très délicate si l'opposition, dans sa grande majorité, refuse de participer à ce processus de dialogue. Ça va être beaucoup plus difficile pour la facilitation.
Alors, professeur,
une des conditions qui est posée pour la réussite du dialogue, c'est la facilitation. Donc, crédibilité de la facilitation.
Professeur,
facilitateur. Oui.
On a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Est-ce que vous pouvez bouger un peu pour améliorer ou carrément la réalisation, on va essayer de vous rappeler parce que là, on vous entend un peu difficilement.
OK.
Voilà. Alors, Dieudonné Moïse, on revient à vous. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï central.
Freddy Sokenge, ville de Kananga, Kasaï central. C'est vrai, Eden Koudjo a été désigné par l'Union africaine. Mais c'est pour quel résultat? Nul ne songe ignorer qu'actuellement rien de bon ne vient de l'Union africaine, qui n'est là que pour renforcer le dictateur dans leur fauteuil. L'UA n'a-t-elle pas envoyé 3 chefs d'État et 2 premiers ministres au Burundi? Qu'est-ce que cela a apporté? N'est-ce pas les cautionnements du 3e mandat de Nkurunziza? Que les tenants du pouvoir sachent que les erreurs des gouvernants appauvrissent les citoyens et perdent les cimetières. Je pense que ce fameux dialogue n'est que le résultat de la crise et de l'antipatriotisme.
Réaction de Denis Mouizi.
Non, madame, j'espère que je vais avoir assez suffisamment de temps pour exprimer mes opinions. Parce que les
chronos, vous avez le même, ne marche pas. Ne vous en faites pas, le réalisateur a un chrono, vous avez le même temps.
Merci bien. Je voulais simplement dire tout de suite d'ailleurs au professeur que je venais de suivre que la tâche de facilitation n'a jamais été une tâche facile. C'est toujours une tâche délicate, donc une mission délicate. Donc je crois que M. Edem Kodjo, avec tout ce qu'il a comme expérience, est conscient de ce qu'il a comme tâche ou de ce qu'il a comme responsabilité. Mais j'ai suivi tout à l'heure, avant de répondre à la question de notre compatriote de Kananga, j'ai suivi tout à l'heure mon frère Bolingeting dire que la situation au G7 n'a pas évolué depuis le début. Non, je crois que j'ai ici la copie de leur communiqué de presse du 20 février 2016 dernier où le G7 a réellement réclamé des négociations directes avec le pouvoir. pouvoir. Et nous, nous avions compris que ça n'enlevait rien dans l'esprit du dialogue, dans ce sens que lorsqu'on dialogue, on peut aussi...
D'après lui, la situation a évolué.
Oui, la situation a évolué, effectivement, et donc ils ne sont pas toujours constants. Hein, à un certain moment, je me demande ce qu'ils veulent exactement. Puisque à son temps, nous nous avions dit que nous ne devions pas accepter les négociations directes entre nous et l'opposition sans pour autant associer la société civile. Nous pensions que la gouvernance électorale concédait également la société civile par le fait que même quand vous allez à la CENI, vous trouverez la présence de la société civile. Donc nous avions compris qu'au G7, il y avait des fins négociateurs et qui peut-être pour une raison ou une autre voulaient nécessairement négocier avec le pouvoir tout en mettant à l'écart la société civile et nous n'étions pas d'accord.
Alors,
mais lorsqu'il y a eu un communiqué de l'Union africaine, de l'ONU et de l'OIF et même de l'IA, ce communiqué était sorti du G7 pour dire que nous voulons réellement des négociations directes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Négociations c'est quoi? Les dialogues c'est quoi? Je crois que pendant ce dialogue, nous allons négocier. Et je voudrais tranquilliser l'honorable Bolen Gueteng en disant qu'il ne faudra pas qu'ils disent que non, puisque Edem Kodjo a dit on commence avec ceux qui sont prêts, que par le fait même ils sont écartés, ou le secrétaire général.
Le la majorité est venu l'a sur dit. Ses propos. Est-ce que
non,
c'est,
non, je crois qu'à un certain moment.
Pas de
non, non, à un certain moment, c'est l'impatience. Politique. À un certain moment, c'est l'impatience. Je crois qu'on a beaucoup supporté les caprices de l'opposition, s'il faut dire ça entre guillemets. Ils sont appelés au dialogue depuis l'année passée. Et M. Okodjo, quand il s'est retrouvé ici en janvier, il n'a fait que ça. Et même aujourd'hui, vous suivez son point de presse du jour. Il ne parle que de cet appel. Mais pourquoi ils ne suivent pas cet appel? Ils ne veulent que voir la petite insinuation qui à la fin pour dire
et
on
donc
commence
vous
avec
que trop, c'est
non,
trop, c'est... Voilà,
non, non, non,
prêt,
moi je pense que le dialogue initié par le chef de l'État, c'est veut politique nationale inclusive. Et par le fait même, pour qu'il soit réellement inclusif, et nous l'avons toujours dit, pour qu'il arrive à corriger les erreurs de 2013 avec les négociations, avec les concertations, il faut nécessairement que tout le monde vienne. Et nous, nous avons besoin de tout le monde, y compris le G7. Donc il ne faudra pas que le G7, je voudrais rassurer M. Bolen Gueteng.
Je crois que vous l'avez rassuré,
disant,
vous
oui,
pouvez répondre maintenant.
Oui, mais je dis simplement que même par ma bouche, je le rassure encore davantage, il peut dire à ses pairs qu'ils sont attendus à ce dialogue, y compris nos amis de la dynamique. Pour revenir à notre compatriote de Kananga, non, moi je pense qu'il y a un résultat. Il ne faudra pas comparer la situation de la RDC à la situation du Burundi. Je crois que le Burundi c'est un autre pays, la RDC c'est un autre pays. Chez nous, nous pensons que nous avons nos problèmes particuliers, nos problèmes qui sont liés au processus électoral, et aujourd'hui nous ne pouvons pas ne pas nous parler. Donc il ne faudra pas qu'on dise pour quels résultats. Je crois que le pessimisme n'est pas bon.
Alors,
et je demande aux compatriotes de comprendre que pendant ce temps, nous n'avons pas d'autre alternative. Nous avons le rapport de l'OIF qui a dit clairement que notre fichier est tombé en désuétude. Je parle du fichier électoral. Nous n'avons pas un corps électoral fiable aujourd'hui. Et on nous parle d'un délai constitutionnel. Je vous ai dit, quand j'ai lu la résolution, j'ai l'exemplaire avec moi. Vous allez au point 8 et au point 9 et au point 7 et au point 8. On parle bien de respecter la constitution, mais de respecter également la loi et le calendrier électoral. Mais le calendrier n'est pas encore là. Le jour que le calendrier sera là, nous allons le respecter. La même communauté internationale vous a parlé ici, je crois que vous suivez du jour au jour, vous a parlé d'attitude. La même communauté internationale a parlé de temps voulu. Donc, restez dans la constitution. Pour organiser les élections, nous pensons qu'il y a des ajustements qu'il faut faire par rapport à nos réalités.
Merci.
Puisque pendant ce temps, nous sommes incapables, il faut le dire ouvertement,
merci,
notre
peuple,
d'aller aux élections d'ici la fin de l'année.
Merci, M. Mouzé, M. Bolen Gueteng. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Dungu. Voilà, on me dit qu'il nous vient de Dungu.
Christa Aribou, territoire de Dungu, province de Haut-Touéré. J'exhorte nos compatriotes de G7 et de la dynamique de l'opposition, s'ils n'ont pas confiance à leurs interlocuteurs congolais de la majorité présidentielle et ceux qui soutiennent la tenue rapide de ce dialogue pour sauver le pays de l'impasse électorale, qu'ils aient au moins confiance à la communauté internationale et particulièrement à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont circonscrit très clairement, à mon avis, la portée de ce dialogue au respect strict du délai constitutionnel. Si les pouvoirs congolais qualifient d'ingérence aux affaires internes de la RDC, ce soutien au respect du délai constitutionnel, aux amis des G7 et de la dynamique de l'opposition qui hésite, comment Eden Kodjo peut-il venir soutenir autre chose que ces résolutions des Nations Unies dans ce dialogue?
Alors, réaction, M. Boletting. Bolenge Tengue.
Aussi bien à notre interlocuteur de Dungu que à notre ami Dieudonné Mwenze, je voudrais rappeler que lorsque les Nations Unies ont rendu publique la résolution 2277, la réaction du gouvernement et de la majorité n'a pas été une réaction de joie. Tout le monde a suivi la conférence de presse des deux ministres du gouvernement. Celui de la communication qui dénonçait le fétichisme des dates auxquelles s'accrochent les Nations Unies dans le cadre du respect des délais constitutionnels. Celui des affaires étrangères a dénoncé ce qu'il a qualifié d'irresponsabilité dans les chefs du Conseil de sécurité qui a voté la résolution. Donc ce n'était pas à la fête. La nomination de M. Kodjo intervient après la résolution 2277 et ne fait aucune référence à cette résolution-là. Voilà pour notre interlocuteur. Donc, si la nomination de Kodjo avait fait explicitement mention de cette résolution, s'inscrivant dans la mise en œuvre de cette résolution, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'esprits se seraient apaisés. Parce que par rapport à ce que le gouvernement a présenté comme la levée de tous les obstacles, dans ces forums qu'on recherche, il y a les facilitateurs, M. Kodjo qui a été désigné, tout le monde peut en prendre acte, nous aussi, mais il y a le cadre de pourparlers qui n'est pas clair. Et c'est cette question du cadre de pourparlers, nous avions cru qu'après les consultations des ambassadeurs qui sont en poste à Kinshasa, après le passage de tous les envoyés spéciaux des grandes nations du monde ici, après le passage du secrétaire général des Nations Unies et avant lui, M. Djinit, M. Kodjo, on croyait que la communauté internationale allait mettre dans les mains du facilitateur qui serait désigné un agenda. Mais M. Kodjo arrive ici, juste on annonce sa nomination et la majorité commence à organiser son cirque habituel. Hier, il y avait une marche ici à Kinshasa du côté de Delvaux avec Oumela et tout ce que vous savez. Nous avons l'impression que le pouvoir en place veut opposer l'Union africaine qui a désigné Kodjo et les Nations Unies qui ont voté la résolution 2277. Parce qu'il n'y a pas un lien explicite entre la désignation de Kodjo et la résolution qui lui a facilité cette désignation en amont. Et donc, nous disons, le cadre de pourparlers n'est pas clair. Et sur cette question, je crois que notre interlocuteur croyait que c'était aussi explicite, mais ça ne l'est pas. Mais donc, tout à l'heure, quand Dieudonné Mwenze disait que notre position n'est pas constante, elle est constante, notre
alors,
position.
Lorsque
nous parlions de pourparlers direct majorité opposition, nous savions que dans notre pays, il y a une composante de la société civile qui a défendu pendant de longues semaines sur les plateaux des radios et des télévisions, les thèses de la majorité dans le cadre de ces dialogues. Il y a une autre frange de la société civile qui n'est pas d'accord. Elle s'est exprimée notamment dans le Front citoyen. Donc s'il doit y avoir des pourparlers majorité-opposition avec des garanties dans le cadre de cette résolution 2277, mais la majorité aura à intégrer à sa délégation des acteurs de la société civile qui défendent cette thèse.
Mais
l'opposition serait de même, mais le dialogue serait inclusif. Donc on a un facilitateur, mais on n'a pas un cadre clair pour parler.
Je vous redonne la parole. Dans le communiqué désignant M. Edem Kodjo comme facilitateur, il est écrit cette nomination est conforme à l'engagement souligné dans le communiqué conjoint de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie du 16 février 2016 pour continuer d'aider la RDC dans cette entreprise.
Voilà, madame. Un communiqué, c'était une entrée en matière. Une résolution du Conseil de sécurité a une valeur plus importante qu'un communiqué de presse. Voilà. Nous aurions aimé que la nomination fasse référence à la résolution, parce que les pays membres de l'Organisation des Nations Unies ont l'obligation de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais un communiqué de presse, ça ne pèse pas autant qu'une résolution. Voilà là où se trouve la préoccupation.
Merci, M. Bolenge Tengue. Professeur Félicien Kabamba, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu au Sud-Kivu.
Je suis Félix Tangatanga, j'appelle la partie de Bouffarou. Sans pour autant être beaucoup pessimiste, j'ai bien peur que le morceau du dialogue ne soit très dur pour Kodjo. Je lui demanderai de consacrer un peu de son temps à voir s'il peut faire fléchir la décision de la dynamique de l'opposition, le G7 et même le Front Citoyen, pour qu'il prenne part au dialogue, sinon ce dialogue aura attendu longtemps, plus de 3 mois pour rien, et de ce fait, il donnera l'impression d'être une prolongation des concertations nationales. Je lui conseillerai aussi d'éviter le triomphalisme quant à ses assurances sur la participation de l'UDPS, parce que non seulement l'UDPS n'a pas le monopole de l'opposition en RDC, mais aussi, en analysant le communiqué des CCT, il y a lieu de parier que cette participation de l'UDPS n'est pas encore un acte.
Professeur, réaction.
Oui, je crois que
l'auditeur vous rejoint un peu.
Une déclaration pertinente. Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends. On vous suit, professeur.
C'est une intervention pertinente, mais je crois que le travail véritablement de la facilitation. Une facilitation devra certainement chercher à réunir tous les acteurs politiques autour d'une table. Et il faut beaucoup de stratégie et beaucoup de temps également pour y parvenir. Ce qui est vrai, c'est que la position de l'opposition est une position qui l'a construite, qu'elle a construite dans le temps. Elle a remarqué, évidemment, si vous suivez les positions prises par nos amis de l'opposition, il s'est dit que le dialogue politique est une stratégie de combat politique de la majorité. Et donc, une stratégie de conservation de pouvoir, dont l'acte 1 avait été l'adoption, l'échec de l'adoption de la loi en janvier 2015. Et donc, du coup, ils se disent le dialogue, c'est l'acte 2. Et ils ne sont pas d'accord pour mordre à cette ambition-là. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Mais au moins là, nous avons, vous voulez, deux stratégies différentes. L'une de l'opposition qui se dit qu'elle a besoin également d'accéder au pouvoir, et l'autre de la majorité qui veut conserver le pouvoir. Alors, si vous devez analyser également la question du dialogue sous l'angle des stratégies des acteurs, en ce moment-là, de penser à réajuster le tir. Ce que le facilitateur devra faire, c'est absolument de convaincre l'opposition, qu'elle soit de tendance pour ou contre, de participer au dialogue. Il faut absolument qu'il ait les arguments de le faire. Il faut le faire. Ne pourra pas déboucher sur un consensus. Il n'y aura pas de consensus, certainement, parce que le consensus est quand tout le monde a avéré. Dans ce moment-là, on pourra peut-être dire qu'il y a quelques résolutions qui sont sorties par ceux qui ont participé au dialogue. Mais on a besoin de construire véritablement des consensus durables, des compromis durables qui pourront être opposables à tous les acteurs. Mais pas le faire, à mon avis, serait très, très, très dangereux.
Il y a aussi cette réaction de Robert Baumé qui nous écrit aussi de Bukavu, professeur. Il dit ceci, je pense que c'est une bonne chose que l'Union africaine désigne Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique en RDC, mais pourvu que ce dialogue se tienne dans le strict respect de la Constitution, le G7 et la dynamique de l'opposition ne doivent pas se mettre à l'écart de cette rencontre importante. Car à quelle autre occasion les acteurs politiques de la RDC se parleront encore pour sortir de la crise politique et de l'impasse du processus électoral, sinon par cette attitude qu'affiche le G7 et la dynamique de l'opposition? Qui de l'opposition ou de la majorité veut-il réellement favoriser le glissement du mandat présidentiel?
Oui, je crois que la question du respect de la Constitution revient toujours, mais il faut aussi d'abord affirmer une chose. Le dialogue politique sous toutes ses formes, est un instrument indispensable dans la recherche de la paix, dans la prévention des conflits et dans la construction de la stabilité des institutions. Ça, c'est la valeur cardinale du dialogue politique. Il faut absolument une promotion du dialogue politique dans notre pays. Seulement, les conflits politiques de la RDC ne peuvent pas être résolus au moyen d'événements de dialogue ponctuels et isolés. Ça exige des processus de dialogue exhaustifs, permanent et multiniveau. C'est de cette manière-là qu'on peut construire sur la durée des processus qui garantissent à toutes les parties prenantes les résultats et, si vous voulez, la réussite du dialogue politique. Il faut éviter véritablement qu'on en soit arrivé là pour lancer les dialogues. Il faut qu'on ait des cultures de dialogue, qu'on ait des infrastructures de dialogue. C'est de cette manière-là que le dialogue peut recevoir un contenu acceptable par tout le monde.
Merci, professeur Dieudonné Mouézé. Il y a un auditeur anonyme qui demande qui est finalement responsable de la situation que la RDC vit aujourd'hui. Il estime que c'est la majorité présidentielle qui n'a pas pris des dispositions pour organiser les élections dans le délai.
Non, madame, je crois que j'ai toujours dit ça. Il ne faudra pas qu'aujourd'hui on commence à parler en termes de responsabilité, puisqu'en principe, j'ai toujours considéré personnellement que les responsabilités sont partagées. Il n'y a pas simplement la majorité qui a l'entièreté des responsabilités. Il y a également l'opposition qui porte une bonne part des responsabilités. Madame, tenez
c'est
par exemple.
Pas alors, oui, c'est pas l'opposition qui organise les élections.
Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas aussi la majorité présidentielle qui organise.
C'est le gouvernement qui donne des moyens.
Non, ce n'est même pas le gouvernement.
Il y a la CENI, mais c'est le gouvernement qui donne les moyens. Allez, vous avez la parole.
Nous risquons de dialoguer. Donc, je disais simplement que ce n'est ni le gouvernement, ni la majorité présidentielle qui organise les élections. La Constitution est claire en son article 211. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui a les d'organiser des élections dans ce pays. Donc il ne faudra pas qu'on commence à parler en termes de responsabilité, puisque tenez par exemple, en 2012, lorsque l'équipe de Murunda devait partir, ceux qui ont voté massivement pour que Murunda parte sont les députés nationaux de l'opposition qui ont voulu que l'on puisse interrompre le processus électoral, qu'on ne continue plus avec ce processus pour que l'équipe de Murunda dégage et qu'on ait une nouvelle équipe. Je vais aussi vous dire que lorsque nous avons été dans la tripartite au niveau de la CENI avec l'opposition. Quelle est cette partie qui avait demandé un calendrier global? Mais c'est l'opposition qui avait demandé, exigé un calendrier global, et à la fin, c'est la même opposition qui dit le calendrier est surchargé, nous ne pouvons plus avoir tous les scrutins à la même période, alors que la Commission électorale nationale indépendante avait compris que déjà le calendrier était surchargé en prévoyant les échéances simplement de 2015 et en laissant d'abord de côté les échéances de 2016. Donc vous comprenez que chacun a une part des responsabilités. Nous avons toujours compris que nous avons été piégé par l'opposition lorsque nous étions dans la tripartite autour de la CENI pour que nous puissions accepter ce calendrier global.
Puis alors, c'est
tout ce calendrier qui a posé le problème. Je termine, s'il vous plaît, madame, en disant que notre compatriote de Dougou a raison d'appeler les compatriotes congolais à la confiance, mais je voudrais également dire que la conférence de presse des deux ministres n'a pas balayé ou rejeté toute la résolution. Non, la conférence de presse des ministres a bien tablé sur deux choses. D'abord, la première, c'est-à-dire cette condition à tout de respecter le délai qui est inscrit dans la Constitution. Nous avions compris personnellement que ce n'était pas possible qu'aujourd'hui nous puissions aller aux élections sans ajustement, puisque les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui nous obligent à tout prix de faire des ajustements.
Merci M. Dieudonné Moïse pour cette conclusion. M. Dieudonné Bolengetenge, vous allez aussi conclure. Pourquoi ne pas aller au dialogue et constater, et après vous décidez de rester ou de partir?
Madame, aller au dialogue pour constater, puis partir, ce serait pour que le dialogue aboutisse à quel résultat? Qui se termine, c'est un monologue entre acteurs de la majorité? Parce qu'il nous dit alors pour quitter.
Il y a aussi des partis de l'opposition qui sont pour ce dialogue.
Mais pour conclure, je dirais ceci. Ceux qui suivent les débats à l'Assemblée nationale, notamment à l'occasion de l'examen du projet de loi des finances chaque année, il y a toujours eu des députés qui ont rappelé au gouvernement et à cette majorité que les élections venaient en 2016, qu'il fallait s'y préparer, il fallait dégager des ressources pour cela. Chaque année, à chaque débat budgétaire, le gouvernement et la majorité n'ont pas voulu entendre les messages. Maintenant, nous sommes en 2016. Un calendrier ne s'élabore pas seul. Il a des responsables qui l'élaborent et qui l'assument. Il y en avait un depuis février 2015, que le gouvernement et la famille politique à laquelle ce gouvernement, dont ce gouvernement et l'émanation, a entrepris de stopper.
Malgré les assurances de M. Kodjo, vous restez catégorique. Merci, M. Moïse. Vous restez catégorique.
Les peuples congolais, la démocratie congolaise, n'ont pas à perdre dans ce schéma. Parce que nous savons que nous sommes respectueux de la Constitution et des lois de la République. Nous respectons les mandats du président de la République jusqu'au 20 décembre 2016.
Merci,
à partir
monsieur
de 20 septembre,
Bolengetenge,
commence la période de 90 jours
merci,
au cours desquels on va avoir les élections.
C'est un autre débat celui-là.
Si cela n'arrive pas,
merci, s'il vous plaît,
ils vont assumer la responsabilité.
Merci beaucoup, M. Bolengetenge. Professeur, un mot en guise de conclusion.
Oui, je crois que l'opposition doit réfléchir deux fois pour voir quelle est la position la meilleure à prendre. Parce qu'en fait, le dialogue suppose une éthique rigoureuse dont la vertu essentielle se trouve condensée dans la capacité de la sincérité, franchie, la modestie de même l'exigence du respect des lois et des règles établies, mais aussi il y a la volonté réelle de résoudre la crise congolaise.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Irung, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique, au micro auquel il écoutait. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.